Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Instant Japon avec le professeur, le sensei Dominique Buisson, qui est un spécialiste du Japon, qui le connaît presque comme sa poche depuis tant d'années que vous y allez. Vous savez, avant de démarrer l'émission, votre premier voyage au Japon, c'était à l'âge de 18 ans, c'est ça, 19 ans?
Non, c'était un peu plus tard. C'était en 1975.
Ça remonte. Et donc, je rappelle à nos auditeurs que tous les mois, vous nous présentez un aspect de la culture du Japon, de son histoire ou de sa géographie. Et aujourd'hui, on va parler de fêtes et de festivals, et notamment de ce que vous appelez, et de ce que les Japonais appellent, Matsuri. Alors, ça veut dire quoi, Matsuri?
Tout simplement, ça veut dire « offert aux dieux ». Ce qui signifie qu'un Matsuri est une fête ou un festival organisé à date fixe pour honorer les dieux du shintoïsme et les rites saisonniers du monde agricole. On peut y ajouter des fêtes bouddhiques, mais les fêtes populaires. Ce qui compte, c'est que le peuple japonais est convié à faire la fête, et ça, il le fait très bien. Ces matsuri peuvent être locaux ou nationaux. Certains sont très connus, comme les grands festivals de Kyoto, d'autres sont beaucoup plus confidentiels, comme les fêtes de divinités villageoises dans les montagnes. Ouais.
Une petite parenthèse, toutes ces divinités, ils y croient ou est-ce que c'est du folklore?
Ah non, je pense que c'est pas du folklore, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils y croient réellement, mais ça fait partie de la japonité dont ils procèdent. Donc, dans le doute, voilà.
Alors, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il y avait autant de fêtes au Japon que de variétés de fromage en France, c'est dire.
Oui, c'est dire. Oui, il y en a au moins 365, d'abord parce qu'il y en a un peu partout en même temps, dans tout le Japon, et que plusieurs matsuri peuvent se dérouler même dans un même lieu en même temps. C'est par exemple le cas à Moriyama, près du lac Biwa, où on commémore la victoire de vaillants guerriers impériaux contre une gigantesque scolopendre qui avait rendu l'empereur malade. La tête du mille-pattes étant tombée à un endroit de la ville et le corps à un autre, la fête se déroule au même moment, mais dans deux quartiers différents.
Ouais. On voit que les Japonais connaissent leur histoire, finalement. Hein? Peut-être plus que nous.
Oui. Ouais.
Alors, il y en a donc toute l'année, des fêtes, si je comprends bien, mais n'y a-t-il pas des moments plus propices?
Alors évidemment, il y a des temps forts pour les fêtes et chaque saison a son propre style de fête. Le repiquage du riz, par exemple, au printemps, la fête des morts en été, la fête des geishas, entre autres, en automne, au printemps d'ailleurs également, il y en a aussi, les fêtes viriles d'hommes nus en hiver, pour ne citer que quelques-uns.
Ça pourrait se marier avec la fête des geishas, non?
Oui, là, c'est un rapprochement uniquement graphique.
Alors, quelle est l'origine de ces matsuri? Ça remonte à très très loin.
Alors, à l'origine, on célébrait les dieux en leur faisant des offrandes dans la nature. Puis, lorsqu'on développa l'architecture des sanctuaires, on accompagna ces offrandes de danse pour réjouir les divinités. On en vint finalement à promener cette divinité parmi les humains qui lui rendaient hommage. C'est l'origine des palanquins sacrés, qu'on appelle les mikoshi, qui ressemblent à des sanctuaires miniatures et que l'on porte à dos d'homme, et également des dashi, les chars qu'on tire. D'ailleurs, ce mot dashi s'écrit avec les idéogrammes pour montagne et roue, car autrefois, on délimitait les espaces de gravier sur lesquels on préparait de petits monticules qui servaient de marchepieds aux divinités. Ces petites montagnes, donc sur roues, peuvent être aujourd'hui gigantesques dans des grands festivals, comme ceux qui se passent à Kyoto, par exemple, le plus célèbre d'entre eux, le Gion, le festival de Gion à Kyoto.
Alors, on connaît le goût des Japonais pour le rituel, pour le rite. Comment se déroule un matsuri?
Alors, il y a d'abord trois grandes parties. L'accueil du dieu, la communion avec le peuple, qui correspond à la sortie du palanquin sacré, et le retour du dieu dans son sanctuaire. Alors, plus précisément, si on déroule, 1. Il faut impérativement commencer par la purification du sanctuaire, du palanquin, des prêtres, des fidèles qui vont porter le mikoshi. En 2. Il y a l'ouverture de la porte pour la sortie du dieu dans son palanquin sacré. Ensuite, en 3. Le prêtre fait des litanies. Après les offrandes de riz, de sel, saké, fruits, légumes, gâteaux, selon son importance. On peut d'ailleurs y ajouter des cadeaux aussi, de l'argent ou des fleurs. Parallèlement, on lui offre en 4 des danses, de la musique, des arts martiaux, du tir à l'arc. Enfin, on lui fait le spectacle. Et surtout, on le promène en ville. Enfin, en 5, à la fin de la fête, on referme les portes du sanctuaire. Le prêtre fait des litanies de remerciement. Et c'est à ce moment-là, pour les fidèles, qu'on va partager, dans un banquet, les nourritures et les boissons offertes aux dieux. Dans la promenade de la divinité dans la ville, il y a un cortège qui précède le palanquin, et ce cortège est mené par un personnage incontournable qui s'appelle Saruta Hiko. Alors lui, on ne peut pas le rater. Facile à repérer, il porte un masque rouge affublé d'un très long nez. Pour autant, il n'est pas Cyrano de Bergerac, mais simplement le gardien du passage entre le ciel et la terre. Et c'est lui qui guida sur terre le petit-fils de la déesse du soleil, Ninigi, lorsque celui-ci vient prendre possession du royaume terrestre au nom de sa tante. Il est souvent accompagné par son épouse, Okame, divinité de la gaieté et de la bonne humeur, qui, alors ça je vous le dis en aparté, hein, mais qui peut perdre parfois une infidélité à son mari et être associé à Daikoku, l'un des sept dieux du bonheur. Mais cela ne nous regarde pas.
Alors là, vous avez parlé donc de sanctuaire et de prêtre. On parle bien de shintoïsme et uniquement de shintoïsme.
Là, on parle essentiellement de shintoïsme, là, dans ce cas-là, quand on emploie le mot Matsuri. Même si des traditions bouddhiques populaires sont rattachées à ça, généralement, les fêtes bouddhiques sont plutôt annoncées comme étant des festivals bouddhiques. Hein. Là, on est plutôt dans le Matsuri, on est plutôt dans le Shinto.
Dans le Shinto. Alors, qu'est-ce qui est plus important dans un Matsuri? C'est le rituel religieux avec tout ce que ça comporte, on l'a vu, c'est très précis. Ou est-ce que c'est la fête qui s'ensuit?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt la fête. Ouais. Mais en même temps, c'est à travers la fête qu'on ressoude la communauté humaine dont les liens se distendent à cause du monde de vie urbain. C'est surtout le moment où on réactive sa parentèle avec les dieux créateurs du Japon. Ces dieux, d'ailleurs, qui sont pour la grande majorité d'entre eux invisibles, mais ils sont le Japon. Il est donc indispensable de régénérer cette alliance chaque année. Comme il est indispensable de prier les dieux pour de bonnes récoltes, même si aujourd'hui, ne nous cachons pas, c'est surtout le moyen de faire la fête, de picoler un peu ou de faire le fier à bras. Car la fête reste un contre-pouvoir au monde hyper policé et codé du quotidien japonais qui permet à 130 millions de personnes de vivre ensemble sans trop de heurts dans un espace grand comme le bassin parisien.
Ce qui est totalement miraculeux quand on y pense.
Eh oui. Eh oui, il ne faut pas oublier que le Japon, c'est 70% de montagne. Hein.
Ouais.
Donc la concentration dans le peu de plaine, évidemment, ça implique des règles de vie en société très très précises.
Et ça marche très bien. Ces fêtes, donc, elles sont toujours aussi prégnantes, même en milieu urbain, où c'est d'abord...
Ah oui. Et c'est même quelquefois complètement incroyable. La plus grosse fête phallique, elle se déroule à Kawasaki, qui est une très grosse ville qui fait partie de la grosse conurbation de Tokyo. Quoi. Et ça, c'est une fête qui est complètement délirante.
Voilà, vous êtes toujours à bord d'Instant Japon, l'émission consacrée à la culture japonaise. Et nous avons, pour nous parler de cette culture japonaise si passionnante, si colorée, si magnifique, un spécialiste, Dominique Buisson. Tous les mois, donc, faut pas manquer cette émission si vous aimez le Japon. Et si vous ne l'aimez pas, bah, vous apprendrez à l'aimer, c'est moi qui vous le dis. Voilà, on est aujourd'hui ensemble pour parler des fêtes et festivals du Japon. Je voudrais que vous nous emmeniez, que vous nous fassiez entrer dans une fête japonaise.
Alors, je vais vous emmener à ma mesure. Donc, j'ai déjà commencé par vous emmener jusqu'au yatai. Les yatai, ce sont des échoppes ambulantes qui vendent de ce qu'on appelle aujourd'hui de la street food, des jouets, des masques, des ballons, de la barbe à papa, des jeux, et qui sont ouverts jusqu'à tard dans la nuit. On y boit beaucoup de bière, on y grignote des brochettes, du poulpe grillé, des nouilles sautées et surtout des okonomiyaki, des sortes de crêpes japonaises salées, agrémentées de choux blancs et de divers ingrédients nappés de sauce de soja. Alors ça, c'est un petit délice. On s'en colle partout, ça dégouline. Non. Mais on a la bière pour attraper tout ça. Et puis, il y a surtout tous les spectacles qu'on offre aux dieux. Donc là, c'est l'occasion de voir des choses parfois magnifiques, hein, du tir à l'arc à cheval, des choses comme ça, c'est incroyable. Et puis, il y a le retour à la maison, le sourire en banane des enfants, le rouge joue des adolescents et les jambes un peu flageolantes des parents.
Vous avez parlé des enfants, une chose tout à fait spécifique au Japon, c'est qu'il y a des fêtes pour les enfants, uniquement pour les enfants.
Oui, oui. Ils ne sont jamais oubliés et leurs fêtes sont nationales. Donc on peut citer la première, selon le calendrier, c'est le Hinamatsuri, la fête des filles qui se tient le troisième jour du troisième mois. À l'origine, les aristocrates déposaient des poupées près du lit de leurs enfants pour que ces enfants célestes absorbent les influences néfastes. Aujourd'hui, le Hinamatsuri consiste surtout à dresser une estrade dans la maison et à y disposer des poupées représentant le couple impérial avec leurs gardes et leurs dames d'honneur. La deuxième fête sur le calendrier, c'est le Tango no Sekku, la fête des garçons, qui se tient le cinquième jour du cinquième mois. Toute cette numérologie est d'origine chinoise.
Ouais.
Autrefois, dans les familles guerrières, les garçons se voyaient remettre ce jour-là des éléments d'armure et on accrochait des feuilles d'iris aux avant-toits des maisons. Parce que l'iris est homophone avec shobu, qui signifie valeur militaire, et que ces feuilles ressemblent à des lames de sabre.
Ouais, c'est vraiment une fête de garçon.
Vraiment. À l'époque Edo, le peuple s'est emparé de cette coutume féodale, et depuis, les enfants sont conviés à prendre des bains d'iris, et on dispose dans les maisons une estrade exposant les poupées de mai, rappelant les vertus martiales. Ainsi que des armures, des arcs, des flèches, des éventails de commandement, des braseros de campagne, des effigies de tigres, enfin tout ce qui rappelle le côté vaillant, guerrier, garçon.
Ça reste une société donc assez virile, assez guerrière. Les garçons, par exemple, ont une place prépondérante par rapport aux filles ou...
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est dans la subtilité, sous la couche, il se passe autre chose.
Ouais. Hein.
Mais en tous les cas, dans le domaine extérieur, on va dire, c'est le cas. Et puis, de toute façon, c'est l'image que tout mâle japonais veut donner. Et autrefois, d'ailleurs, et on le fait encore beaucoup aujourd'hui, quand une famille a eu des garçons nouvellement nés, on hisse des carpes bannières, des bannières ou des manches à air en forme de carpe, qu'on appelle les koinobori, et ça, c'est ça, très joli, de voir les carpes flotter dans le ciel. Alors, depuis 1948, cette fête des garçons est devenue la fête nationale. Ça, c'est pour rebondir sur votre question. Effectivement, là, le gouvernement a choisi plutôt la fête des garçons, qu'il a transformée en fête nationale de tous les enfants.
Quand même, hein.
Mais enfin, les petites filles continuent à recevoir leurs copines le 3 mars. Alors, il y a une autre fête des enfants. Alors, celle-là est assez intéressante aussi. On l'appelle le Shichigo-san, ce qui veut dire 7-5-3. C'est un rite de passage des enfants, donc de 7, 5 et 3 ans, qui se tient autour du 15 novembre. Ce rituel trouve son origine à la période Heian, parmi les nobles qui célébraient le passage de leurs enfants dans l'enfance moyenne, en tenant compte de la numérologie chinoise qui veut que les chiffres impairs portent bonheur. On cessait ce jour-là de raser la tête des enfants de 3 ans, donc des garçons de 3 ans. On autorisait les garçons de 5 ans à porter le hakama des guerriers pour la première fois, et les filles de 7 ans remplaçaient les simples cordons d'attache de leur kimono par un vrai obi, une vraie ceinture. Aujourd'hui, les enfants se rendent au sanctuaire, vêtus de leurs plus beaux habits, et on leur offre des sucreries de Milan, des sortes de sucres d'orge rouges et blancs, mises dans un sac sur lesquels sont dessinées une grue et une tortue symbolisant la longévité.
Ouais. Vous avez parlé du obi, c'est un élément de séduction essentiel pour une fille ?
Ah ben, c'était le bijou, le seul bijou de la femme.
Oui.
C'était sa ceinture.
C'était sa ceinture.
Le deuxième bijou étant sa gestuelle.
Oh, c'est magnifique.
Qui était gracieuse, évidemment. Alors, cette enfance, On l'a conclu évidemment au moment du passage à l'âge adulte. Et là encore, c'est une fête nationale et même un jour férié. C'est la fête de la majorité, qu'on appelle le Seiji no Hi, qui se tient le deuxième lundi de janvier. À partir du 8e siècle, on fêtait le passage à l'âge adulte lorsqu'on atteignait 15 ans. Dès le lendemain, le jeune guerrier pouvait revêtir l'armure et partir au combat.
À 15 ans, ah oui.
À 15 ans, oui. Il fallut attendre 1999 pour que l'âge de la majorité soit repoussé à la 20e année. La plupart des jeunes femmes qui célèbrent cet événement portent le kimono à longues manches, qu'on appelle le furisode. Lorsqu'elles seront mariées, elles n'auront plus le droit de porter que le kimono à manches courtes. Donc c'est un des signes qui indique. Et les garçons portent parfois le kimono traditionnel, mais le plus souvent le costume moderne. Par contre.
Alors, je suppose que beaucoup de fêtes sont liées au monde agricole. Vous nous parlez par exemple du repiquage du riz, etc.
Bien sûr. Oui. Il y a forcément une fête à toutes les étapes de la culture du riz. Il y en a quand même pas mal. Donc à chaque étape de la croissance, les divinités sont invoquées pour protéger les grains et espérer une récolte abondante. Des rites d'été appellent ainsi à une eau suffisante, un temps clément, la protection contre les insectes et les désastres naturels. Ces fêtes peuvent être spectaculaires, que ce soit des fêtes du feu ou des bagarres debout dans les rizières. c'est assez rigolo. Elles ont pour but de prier pour les récoltes, mais aussi pour la santé, la croissance et le bonheur des participants. Il y a néanmoins deux temps très forts, la fête du repiquage du riz au mois de juin et bien sûr la fête des récoltes. Lors de cette dernière, l'empereur du Japon lui-même offre le riz nouveau à son ancêtre céleste, la déesse du soleil. À la fin de la cérémonie, il mange lui-même le riz nouveau, ce qui autorise le peuple à faire de même. Bien entendu, la culture étant tributaire de nombreux facteurs climatiques, il existe de nombreuses fêtes de conjuration ou d'appel à la pluie. Très souvent, on fait parader un serpent ou un dragon, tous deux symboles de pluie. Et puis surtout, il y a les insectes. La première mention d'une expulsion des nuisibles date de 807. La cérémonie a souvent lieu le 11e jour du solstice d'été, à la tombée de la nuit, juste après les travaux de plantation du riz. Il s'agit le plus souvent d'une procession au flambeau avec gong et tambour, et parfois un mannequin de paille qui serpente à travers les rizières jusqu'à une extrémité du village pour rejeter les insectes et les nuisibles à l'extérieur, donc en fait sur le village voisin, qui va faire la même chose, qui va rajouter ses propres insectes et ainsi de suite. Et donc, on va ainsi de suite aller jusqu'à la mer.
Mais réellement, les insectes quittent le village, là?
Ah bah, ils sont censés le faire.
Ils sont censés le faire. Et quels insectes, de quels insectes?
Oh bah, c'est toutes les bestioles qui mangent le grain. Alors, il y a des choses très marrantes en hiver. Par exemple, on leur fait en paille des très jolies petites sculptures de paille, dans lesquels les insectes vont forcément se réfugier l'hiver à cause du froid. Et dès les premiers jours, on met le feu à ces structures, donc on grille tous les insectes. Voilà. Ceux qu'on n'a pas grillés, on les expulse.
On les expulse. Vous êtes bien à bord de l'émission Instant Japon, en compagnie de Dominique Buisson et moi-même, Christophe Jubien. Nous évoquons les fêtes du Japon. Elles sont innombrables, au moins une fête par jour, rendez-vous compte. C'est un peuple gay, le peuple japonais, non ?
Eh bien, finalement, oui.
Alors, on parle donc de ces fameux matsuri, ces offrandes aux dieux qui sont liées au Shinto, vous l'avez dit. Mais vous avez aussi parlé tout à l'heure de fêtes bouddhiques.
Oui, il y en a bien sûr. Et la plus importante est celle des morts. Même si les shintoïstes ont aussi leur fête des ancêtres, qu'on appelle Mitama, au Japon, la mort est plutôt fortement lié au bouddhisme et à sa théorie de la réincarnation. Donc c'est une fête qu'on appelle le Obon ou Urabon. Elle a lieu chaque année durant 3 jours, du 13 au 15 juillet inclus. Dans certaines régions, c'est au mois d'août, mais enfin, on a tendance à uniformiser maintenant. Parce que les fidèles pensent que pendant 3 jours, les âmes des défunts reviennent sur Terre pour partager vie et repas avec leur famille. On place en conséquence des lanternes sur le chemin menant au cimetière jusqu'à la maison afin de leur montrer la route à suivre et on dispose une place et des mets à la table familiale afin qu'ils puissent s'y reposer et s'y restaurer. Dans les villages et dans les quartiers, des bons odori, c'est-à-dire des danses de la fête du bon, sont organisées autour d'une estrade où se tiennent des musiciens jouant de la flûte et du tambour. Le soir du 15 juillet, de petits esquifs en papier portant une lumière sont abandonnés au cours d'une rivière ou mis à la mer pour souhaiter aux âmes un bon voyage de retour. Alors, évidemment, dans certains lieux, ces fêtes sont plus graves que d'autres. C'est le cas à Hiroshima.
Ah oui.
Lors de la pose des lanternes sur l'eau de la rivière qui mène à la mer, là, il y a quand même un pathos important. Dans d'autres, au contraire, c'est très très joyeux, on tire des feux d'artifice magnifiques, voilà. Mais il y a une de ces fêtes qui est chaque année très très controversée. C'est celle qui accompagne les esprits des Japonais tués pour le Japon depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la dernière guerre mondiale. Il y a près de 2 millions d'âmes en jeu, là. Mais dans ces 2 millions d'âmes, il y a 1500 criminels de guerre.
Oui.
Et comme chaque année, le Premier ministre se rend au sanctuaire Shinto Yasukuni pour présenter ses hommages, il déclenche évidemment dans le monde entier des vagues de protestations, surtout en Chine, en souvenir du massacre de Nankin, en particulier.
Ouais. Même maintenant, ça continue de
scandaliser. Ah oui, chaque année, comme si le gouvernement japonais, le Premier ministre, prenait un malin plaisir à réactiver les tensions.
Est-ce que ces tensions, on a l'impression parfois qu'elles se réveillent, comme ça,
d'ailleurs. Ah oui, c'est incroyable.
Ouais. Alors, quels sont les Matsuri les plus prisés par les visiteurs étrangers?
Alors, sans conteste, ce sont ceux de Kyoto. Il y en a trois dans l'année, trois grands festivals. Le Aoi Matsuri, le festival de la rose trémière, qui se déroule le 15 mai et qui reproduit une procession de l'époque Heian, qui se dirige vers deux grands sanctuaires, le Shimogamo et Kamigamo. Il doit son nom aux roses trémières qui décorent les anciens chars aristocratiques. Ensuite, il y a la fête du Jidai Matsuri, c'est la fête des âges qui a lieu le 22 octobre, date de la fondation de la ville en 1794. 2000 figurants défilent du palais impérial jusqu'au sanctuaire Heian en arborant les costumes de toutes les époques où Kyoto fut capitale de 1794, donc à 1867. Donc on a vraiment un défilé absolument magnifique de toutes les époques, de tous les costumes, avec des personnages iconiques de chaque époque, comme des poétesses célèbres, des guerriers célèbres. C'est tout à fait étonnant. Il y a enfin le Gion Matsuri, le grand festival qui se déroule dans le quartier de Gion, donc près du sanctuaire Yasaka. C'est le quartier des Geisha qui est dans ce coin-là. Alors, c'est un festival qui a été initialement instauré en 869 comme rite d'exorcisme contre la peste. Et le clou du festival est la parade de 33 énormes chars qui représentent les différents quartiers de la ville. Ces chars sont énormes, ils peuvent même transporter jusqu'à une dizaine de musiciens.
Comme des chars de carnaval un peu.
Ah oui, c'est vraiment, c'est très très grand. Il y a plusieurs formes classiques, mais c'est étonnant. Et un enfant sage de la ville est choisi chaque année pour devenir le page des divinités.
Il se trouve encore des enfants sages au Japon, c'est une
bonne nouvelle. Oui, enfin, ils sont censés l'être. Sinon, on serait bien embêtés. Alors, je citerai encore deux festivals qui se déroulent dans le nord du Japon. Ce sont des festivals d'été, ce qui est intéressant parce qu'il fait plus frais. Donc les touristes aiment bien aller jusque là-bas. C'est le Nebuta Matsuri à Aomori et le Kanto Matsuri à Akita. Ce sont deux festivals de lanternes. Celles du premier sont immenses et représentent des guerriers, sans souvenir d'une ruse guerrière, où on a fait des effigies comme ça pour tromper l'ennemi. Les secondes, ce sont en fait des grappes de 46 lanternes installées sur des mâts de 8 mètres de haut qu'on doit porter en équilibre sur la main, sur l'épaule ou sur la hanche. Alors c'est assez spectaculaire, c'est une jolie prouesse et l'objet de cet événement est de prier pour des récoltes abondantes et pour éloigner les mauvais esprits, comme toujours. Enfin, il y en a une que je conseillerais à ceux qui aiment les sensations fortes. Elle se tient du 11 au 13 octobre à Himeji, là où il y a le fameux château blanc très très beau. C'est un combat parce que les Mikoshi, donc les palanquins, les dieux, sont lancés littéralement à l'assaut les uns des autres par des hommes qui les portent sur leurs épaules. Donc il n'y a pas véritablement de règles ni d'interdictions lors des violentes collisions de ces palanquins. Et dès que les palanquins arrivent, le premier qui voit l'autre, tout le monde se jette les uns sur les autres. Alors il y a un temps fort, c'est lorsque trois Mikoshi, qui sont portés par des hommes de plus de 35 ans pour l'un, de 26 à 35 ans pour l'autre, et de moins de 26 ans pour le troisième, qui arrivent avec des grands bambous, et qui vont essayer de porter le palanquin au bout de ces bambous, et de faire en sorte qu'il y en a un qui passe au-dessus des autres. Et c'est évidemment celui qui passe au-dessus des autres qui est vainqueur.
C'est le moment des hommes forts, là.
Alors oui. Là, après, on a toutes les variétés de nuances de bleu sur le corps.
Alors, quel est, vous, votre festival préféré ou vos festivals préférés?
Alors, moi, il y en a plusieurs. Sans hésitation, les festivals d'hiver.
Pourquoi?
Parce qu'ils démontrent que les Japonais sont fous. Donc ça me plaît bien. Ce sont des fêtes viriles, des fêtes complètement folles, improbables même, comme de se promener dans la neige, nu vêtu seulement d'un pagne et se faire arroser d'eau glacée. Donc on les appelle les fêtes des hommes nus. D'autres y rajoutent le feu pour que le contraste thermique soit encore plus important. Comme le Matsuri du feu de Moriyama, qui voit des jeunes gens transporter le palanquin sacré toute la journée dans le froid glacial, puis à la tombée de la nuit, allumer de gigantesques torches de plus de 10 mètres de long, qui représentent, rappelez-vous, la scolopendre géante de tout à l'heure, voilà, ce sont les morceaux de la scolopendre. Et ils se mettent à danser devant le bûcher. Mais la plus grosse fête du feu de l'hiver se déroule à Nozawa Onsen, une station de ski de la préfecture de Nagano, où il y avait eu les Jeux Olympiques.
Oui, on s'en souvient, oui.
Alors ça, c'est une fête de conjuration des âges néfastes. 25 et 42 ans pour les hommes.
Pourquoi?
Alors ça, c'est encore c'est une histoire question, de truc chinois, c'est la numérologie chinoise. Hein. Mais alors celle-là, elle est complètement folle, parce que le but de la fête, c'est de construire un sanctuaire temporaire en bois, d'y faire grimper tous les hommes du village âgés de 42 ans, et de faire défendre la structure par tous les jeunes âgés de 25 ans. Jusque-là, pas de problème. Mais défendre contre quoi? Eh bien, contre tout le reste du village, qui vient tenter d'y mettre le feu. Alors c'est assez violent, surtout pour les défenseurs, qui n'ont rien d'autre que leur manu pour se défendre. Et puis, pas mal de litres de bière dans le gosier aussi. Hein. D'autant que ceux qui ont 42 ans lancent sur la foule des baguettes de bois très enflammables pour donner encore plus d'ardeur aux assaillants.
C'est très encadré, espérons-le quand même.
Enfin, au bout d'une heure et demie à peu près de combat, on laisse les 42 ans descendre et on met définitivement le feu à la structure. Mais il y a plus violent encore. C'est la fête des hommes nus de Konomiya qui se déroule depuis le 8e siècle, 13 janvier, près de Nagoya. Ça, c'est pour chasser le mauvais esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La bourgade choisit un bouc émissaire et des milliers de gens se battent pour le toucher. L'élu doit se purifier pendant 3 jours et 3 nuits et quand il sort du sanctuaire, il est entièrement nu et il est porté à bout de bras par tous les gens qui veulent le toucher. Il est protégé par des hommes sacrés vêtus de blanc alors que tous les autres sont arrosés d'eau glacée. Là encore, les participants sont âgés de 25 et 42 ans. C'est encore donc une fête pour les âges néfastes. Alors la sortie dure à peu près 45 minutes et à la fin, il y a passage obligé à l'infirmerie.
Sans doute. Dominique, merci beaucoup. Vous nous avez apporté la preuve définitive que les Japonais sont complètement fous. On se retrouve dans 4 semaines pour la prochaine édition d'Instant Japon. Merci beaucoup. Merci à Simon La Technique.